Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le 11 décembre 1925, Pie XI instituait pour l'ensemble de la catholicité la fête du Christ roi. Il a voulu que ce fût le dernier dimanche d'octobre, c'est-à-dire le dimanche qui précède immédiatement la fête de tous les saints. De sorte que, alors que jusqu'à lui, on célébrait déjà l'entrée dans la gloire du corps mystique de chacun des saints qui avait mérité l'entrée en présence de la Trinité Sainte, on allait maintenant célébrer juste avant la glorification de la tête de ce corps mystique, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, roi. Il y a donc une logique tout à fait spirituelle dans l'action de Pie XII. Comme il décrit en substance dans l'encyclique à laquelle je me permets de vous renvoyer, puisque vous savez que Dies Domini, on ne doit pas se satisfaire de la simple célébration de la messe, mais s'efforcer par ailleurs de sanctifier le jour du Seigneur, le jour des solennités. Donc aujourd'hui, je vous invite à aller, après un bon repas, une petite sieste, à aller faire un tour du côté de Quas Primas, qui est l'encyclique justement par laquelle Pie XI instituait la fête du Christ roi, qui est toujours à relire et à méditer, parce que d'abord elle est écrite dans un latin cristallin, bon, mais la traduction française est magnifique, et parce que les vérités qui y sont données sont capitales aujourd'hui, peut-être plus encore qu'à l'époque du Pie XI où les choses n'allaient déjà pas très bien. Pie XI a écrit cette encyclique pour répondre à ce rejet du droit du Christ à régner, pas seulement sur les cœurs, comme on le concède volontiers dans toutes les branches de l'Église, mais aussi sur les familles, sur les corporations, sur les entreprises, sur les villes, sur les nations. Voilà donc ce que Pie XI voulait faire, affirmer la nécessité que le Christ y règne, parce que sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Le Christ se décrit lui-même comme la pierre angulaire. Sans pierre angulaire, je ne suis pas un expert en maçonnerie, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose dans l'établissement d'une maison. Voilà donc ce que Pie XI faisait, alors qu'une partie du monde était dans le chaos, déjà, avec la montée du communisme, avec la montée, déjà en 1925, de certaines doctrines qui s'apparentaient à ce qui allait devenir l'arianisme. Voilà que, et le matérialisme post-Deuxième Guerre mondiale, dans lequel nous baignons toujours et nous cessons de nous enfoncer, voilà que Pie XI se rappelait que toutes ces idéologies, toutes ces tentatives d'établir une cité autrement que sur la personne de Jésus-Christ étaient vouées à l'échec. Tel Adam et Ève qui avaient rejeté dans l'Éden leur père, Dieu le Père, avec lequel ils étaient pourtant dans une proximité étonnante, si on s'en tient au récit du livre de la Genèse, ils avaient été excités par Lucifer, le diviseur, et bien de la même manière, voilà qu'à l'époque de Pie XI, depuis déjà l'entrée dans le XVIe siècle, avec ce qu'on a appelé la modernité, et tout son potentiel mortifère, excité par des fous, voilà que les sujets décidaient du moins les sujets de l'écrasante majorité des pays de la chrétienté, décidaient de s'affranchir de la tutelle de notre Seigneur sur les nations. Alors, on pourra me dire que, si l'on est un peu critique, et si l'on connaît un peu l'histoire, qu'il ne faut pas être binaire, que la réalisation concrète du règne de Jésus-Christ, du règne social de Jésus-Christ dans la chrétienté, n'a pas toujours été tout à fait heureuse. Voilà, je ne suis pas monolithique, et je vous invite à ne pas l'être non plus, c'est-à-dire à ne pas se figurer qu'il y a eu un âge d'or. D'âge d'or, mes amis, il n'y en aura qu'au ciel. Donc il ne faut pas s'étonner de voir, puisque l'homme étant l'homme, que effectivement, ces épousailles entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, pas plus sous la chrétienté qu'après la chrétienté, c'est-à-dire dans cette situation désastreuse dans laquelle nous sommes, les choses allaient comme en paradis. Bien sûr que non. Néanmoins, il y a eu une excitation, nous savons bien, une excitation à en finir avec justement ces épousailles. Je concède donc à ceux qui se seraient soulevés à l'époque que le système n'était pas rose. Et je crois qu'ils ont péché par utopisme. C'est effectivement ainsi qu'ils nommaient du reste tous les systèmes politiques qu'ils entendaient substituer au système de la chrétienté qui donnait la primauté au Christ. Ils appelaient cela les utopies, confessant utopie en grec, ou topos, qui n'a pas de lieu, sans lieu, confessant donc en réalité leur construction idéale n'était que des constructions idéales et irréalistes en réalité. Vous voyez, ça sort de leur bouche même, une sorte de confession. Les démons eux-mêmes sont obligés de confesser la divinité de Jésus-Christ. Alors, ceux qui détruisent la chrétienté, c'est très étonnant, par un même mouvement, confessent en quelque sorte, comme à contre-cœur, eux-mêmes, dans le titre qu'ils donnent, Utopie, qu'il est impossible de mettre en œuvre ces cités sans Dieu. Voilà, tout ça pour vous dire que Pie XI, donc, entendait lutter contre cette prétention que nos ancêtres et que nos contemporains et que chacun d'entre nous, au fond de son cœur, même s'il glorifie cette époque de la chrétienté, même s'il rêve de toutes sortes de chevaleries ou de sociétés par ordre, au fond de chacun des petits hommes modernes dont nous sommes tous affectés de ce péché-là, nous avons cette suffisance et ce conseil perpétuel à donner à Dieu sur la manière d'organiser la cité. Parce que c'était cela le fond du problème. On entendait, comme Adam et Ève, on entendait expliquer au bon Dieu qu'en réalité, ces voix n'étaient pas nos voix pour retourner les paroles mêmes de Jésus-Christ, de manière un peu cynique. Nous expliquions à Dieu que, nous étions pourvus d'une intelligence, grâce à lui du reste, et que nous étions capables de nous débrouiller. Vous voyez, depuis encore une fois le début du XVIe siècle, il a fallu bien sûr attendre la Révolution française, et il a fallu attendre que le couperet sévisse un peu partout en Europe, pour que se réalise à grande force de poignée humain ce blasphème contre la providence divine et ce rejet de Jésus-Christ. En réalité, ceux qui ont rejeté Jésus sont de fort mauvais calculateurs. Vous voyez, cet orgueil humain qui aveugle toujours l'intelligence et le cœur. Parce que lorsqu'on regarde Jésus-Christ et lorsqu'on lui compare les princes ou les chefs d'État de quelque système politique qu'ils fussent issus, que constatons-nous ? Que Jésus-Christ est le seul qui fait ce qu'il dit. Un certain général français de brigade, à titre temporaire, etc., disait qu'il nous avait compris. Un certain Nicolas nous a dit qu'il nous promettait des choses et qu'il ne nous mentait pas, il ne nous trahirait pas. Un certain François, je ne sais plus lequel, un certain François nous a dit que le changement c'était maintenant. Et en réalité, pour ne prendre là que vraiment les derniers avatars de cette rébellion contre Dieu, en réalité, quel que soit le chef d'État, quel que soit, fut-il un empereur, comme Napoléon, comme Adolf Hitler a cru l'être, ou fut-il même un empereur plus glorieux que ces gens-là, en réalité, le programme qu'il propose et les promesses qu'ils font miroiter à leurs sujets ou aux citoyens, pour ne rien dire du communisme, nécessairement sont voués à l'échec. Jésus-Christ, lui, ne ment pas. Jésus-Christ, avant même de connaître la croix, a l'audace de s'écrier « J'ai vaincu la mort ». Et 3 jours plus tard, il sort du tombeau, au vu et su de ses apôtres et des saintes femmes, et il montre qu'il a été capable de vaincre l'ennemi par excellence du genre humain. L'ennemi par excellence, c'est Satan, mais il y en a un deuxième immédiatement subséquent, c'est la mort. Un chef d'État, un roi qui est capable de vaincre la mort, je crois qu'on a toute raison de se fier à sa parole. Pour comparer ensuite, sur un autre plan, les chefs d'État, quels qu'ils soient, aussi excellents qu'ils soient, mais dépourvus du Christ et le Christ lui-même, en matière d'exercice du pouvoir, je crois que les choses sont assez claires. L'autorité de Jésus repose sur cet amour de ses sujets. C'est le fait qu'il fasse un don total de sa personne. Et Jésus le dit lui-même, il n'y a pas de plus grand signe d'amitié que de donner sa vie pour ses amis, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il l'a fait, il l'a fait. Quel est le chef d'État qui l'a fait? J'entends chef d'État qui ait refusé Jésus-Christ, qui ait entendu substituer un autre système, parce qu'on parlera de Louis XVI par exemple, à raison, qui s'est offert pour la patrie, pour ces gens, mais toujours sous la houlette de Jésus-Christ, en imitation à Jésus-Christ. Vous voyez, lorsque l'on connaît les règles de dévolution du pouvoir, on sait la fièvre qui s'empare et des prétendants et du peuple. Nous sommes dans un système de quinquennat en perpétuelle campagne politique. Croyez-vous qu'il puisse y avoir un jeu sain ? Évidemment non. Mais serait-il des mandats de 10 ans, de 20 ans ? Je crois que la dévolution ne serait pas ce qu'elle est avec Jésus-Christ. Et même dans le système monarchique et les lois saliques, nous souffrons de quelque chose qui est irrémédiable parce qu'il tient à la nature humaine. Nos rois mouraient. Et on avait beau s'écrier « Le roi est mort, vive le roi !» arguant par là de la perpétuité du principe monarchique, nous n'avions pas cette pérennité que nous trouvons en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul roi qui règne définitivement parce qu'il est éternel, parce qu'il est immortel, il est passé par-delà la mort. Bref, je parle à des convaincus, mais je crois que sur tous ces points, il faut oser s'entretenir avec nos contemporains pour leur montrer très simplement la supériorité évidente de Jésus-Christ. Est-ce à dire pour autant, ne vous inquiétez pas, je n'ai que 5 minutes encore à consacrer à ce sujet et à requérir votre attention, et puis ensuite je vous laisse méditer sur les mystères éminents de Jésus-Christ, roi présent sur l'autel. Est-ce que c'est à dire que, puisque je semble mépriser les princes temporels, est-ce que c'est à dire qu'il faut que Jésus soit le roi directement sur la cité ? Ça, c'est un peu le piège dans lequel tombent tous les déçus du pouvoir temporel, quel qu'il soit, et même des monarques de droit divin. Oui, parce que la réalité de la monarchie de droit divin, bien sûr, n'a, elle non plus, pas été toujours exemplaire. Alors on se dira que, par idéalisme, là encore, mais idéalisme opposé, donnant tout le droit à Jésus-Christ de régner, que le prince temporel ou n'importe quel chef d'État n'a pas lieu d'être. On rayera la sphère temporelle et l'on ne comprendra pas ce que défend l'Église, ce que promeut Pie XI, ce qu'avant lui Léon XIII, Grégoire XVI et puis Pie X entre les deux. Mais en réalité, Pierre, depuis le début de l'Église, et Jésus-Christ lui-même, de distinguer, comme nous l'avons vu la semaine dernière, Jésus-Christ qui faisait, avec rendons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, qui posait les bases d'une saine politique de distinction des deux champs, avec une légitimité laissée aux deux champs. Il n'est pas question d'attendre que Jésus sorte du ciel et vienne régner sur nos nations. Pas plus qu'il n'est question, lorsqu'on est un père de famille ou une mère de famille, d'attendre très facilement, les orteils en éventail, que Jésus-Christ descende dans la maison pour être le chef de la maison. Non. Il est effectivement le chef de la maison, et par un droit éternel en tant qu'il est Dieu, créateur, et par un droit acquis dans son humanité, en tant qu'il a gagné, comme nous le dit Saint Paul dans son hymne aux Philippiens qui est magnifique, lui qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il a gagné à Dieu, il prit la condition de serviteur, et nanana, jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a exalté, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. On voit là qu'au pouvoir éternel que Jésus-Christ a régné, au droit éternel qu'il a régné, s'ajoute un deuxième droit acquis, si j'ose dire, dans son humanité, par sa souffrance et par le don total de sa personne. Mais, je ne sais plus où je voulais en venir, Jésus donc a ce droit, c'est cela, sur toute institution humaine, État, corporation, famille, et en même temps, il ne détruit rien des autorités naturelles qu'il a lui-même établies. C'est, je crois, cette alchimie magnifique que la chrétienté avait parfaitement compris, même si les réalisations étaient imparfaites, parce qu'humaines, c'est cet idéal-là que la papauté continue de promouvoir, et jusqu'au dernier représentant de la papauté. J'entends même le pape François qui continue de défendre cette distinction des deux champs, la légitimité à ce que le prince exerce son rôle de prince et la nécessité qu'il a à se fier à ce roi des nations qu'est Jésus-Christ. Mes frères, je crois que nous ne pouvons pas nous permettre de critiquer la situation actuelle comme je viens de le faire, sans en même temps se dire que nous aussi, nous avons à laisser Jésus-Christ régner dans toutes les sphères de notre existence. Si les choses vont si mal à l'échelle macroscopique, peut-être est-ce que à l'échelle microscopique des familles, ou même de chacune de nos personnes, Jésus-Christ n'exerce pas encore réellement sa primauté, comme il y a droit. Alors, pour vraiment que Jésus-Christ puisse concrètement être roi. Nous allons consacrer, comme Pie XI l'avait demandé dans son encyclique, nous allons consacrer chacun d'entre nous, vos familles, vos entreprises, que sais-je, et notre pays au cœur sacré de Jésus roi. C'est ce qu'avait fait Pie XI en son temps, et il avait demandé que ce soit le perpétuel mémoire, c'est-à-dire que l'on continue chaque année, le jour du Christ roi, à le faire. Alors nous le ferons à la fin de la messe, mais cela doit s'accomplir d'une ferme résolution que je vous supplie de faire devant l'autel quand Jésus-Christ sera présent, notre roi, de vraiment consacrer chacune des parcelles de votre existence à la royauté de Jésus-Christ. Encore une fois, il y aurait trahison à défendre la royauté sociale de Jésus-Christ si concrètement dans notre existence, nous nous permettions de garder pour nous des domaines où nous sommes souverains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.